Cinquième partie. Le monde tel qu'il est. Chapitre 18. De même que j'avais pris l'habitude de saluer chaque fois que je montais à bord de Marine One ou d'Air Force One, ou que j'interagissais avec des militaires, je suis peu à peu devenu plus à l'aise et efficace dans mon rôle de commandant en chef. À mesure que mon équipe et moi maîtrisions mieux la foule des acteurs politiques internationaux, scénarios, conflits et menaces, les briefings matinaux sont devenus de plus en plus succincts. Des liens naguère obscurs m'apparaissaient désormais évidents. J'étais capable de vous dire du tac au tac quelles forces alliées étaient déployées en Afghanistan, où elles étaient stationnées et comment elles se comportaient au combat. Quels ministres irakiens étaient des nationalistes convaincus et lesquels travaillaient en sous-main pour les Iraniens. Les enjeux étaient néanmoins trop importants et les problèmes trop épineux pour que je me laisse gagner par la routine. Je commençais à aborder mes responsabilités avec l'état d'esprit d'un démineur prêt à couper un fil ou d'une funambule prête à quitter sa plateforme, car j'avais appris à améliorer ma concentration en me débarrassant de mes peurs superflues, tout en évitant de me montrer trop détendu, sous peine de commettre des étourderies. Il y a toutefois une tâche dans laquelle je ne me suis jamais autorisé à relâcher mon attention. Une fois par semaine environ, mon assistante, Katie Johnson, déposait sur mon bureau un dossier contenant des lettres de condoléances à signer, qui seraient ensuite envoyées aux familles des militaires morts au combat. Je fermais la porte de mon bureau, j'ouvrais le dossier et je m'arrêtais sur chaque courrier, lisais le nom à voix haute comme une incantation, essayais d'imaginer à quoi avait pu ressembler la vie de ce jeune homme, les victimes étaient rarement des femmes. L'endroit où il était né, l'école qu'il avait fréquentée, les goûters d'anniversaire et les baignades qui avaient rythmé son enfance, les équipes dans lesquelles il avait joué et les amoureuses qui lui avaient brisé le cœur. Je pensais à ses parents, à sa femme et à ses enfants s'il en avait. Je signais lentement chaque lettre, veillant à ce que ma main gauche, qui tenait le stylo par le dessus, ne fasse pas baver l'encre sur l'épais papier beige. Quand la signature n'était pas exactement telle que je la voulais, je faisais réimprimer la lettre, bien conscient que quoi que je fasse, ce ne serait jamais assez. Je n'étais pas le seul à envoyer ce type de courrier. Bob Gates correspondait lui aussi avec les familles des soldats morts en Irak et en Afghanistan, même si nous n'en parlions presque jamais. Gates et moi avions développé une solide relation de travail. Nous nous réunissions régulièrement dans le bureau ovale, et je lui trouvais un caractère pragmatique et égal, ainsi qu'une franchise rafraîchissante, une confiance tranquille, qui lui permettait de défendre sa position sans toutefois rester bloqué dessus. La compétence avec laquelle il dirigeait le Pentagone m'incitait à lui pardonner les moments où il essayait de me diriger, moi aussi. Et il ne craignait pas de s'attaquer au poids lourd de la défense, notamment lorsqu'il s'agissait d'en maîtriser le budget. Il pouvait se montrer susceptible, particulièrement avec les plus jeunes membres du staff, et nos différences d'âge, d'éducation et d'orientation politique empêchaient que nous puissions devenir amis. Chacun reconnaissait cependant le sérieux et la probité de l'autre, probité non seulement envers la nation qui nous avait confié sa sécurité, mais envers les troupes dont le courage nous impressionnait tous les jours, et envers les familles qu'elles avaient laissées au pays. Heureusement, nous tombions d'accord sur la plupart des questions de sécurité nationale. Par exemple, au début de l'été 2009, nous partagions le même optimisme prudent concernant l'évolution de l'Irak. La situation ne semblait pourtant pas s'y prêter. L'économie s'était effondrée, la guerre avait détruit presque toutes les infrastructures vitales et la chute mondiale du prix du pétrole avait sapé les recettes du pays, et le gouvernement irakien était pieds et poings liés par le blocage parlementaire. Durant ma brève visite en avril, j'avais suggéré au Premier ministre al-Maliki plusieurs idées allant dans le sens de réformes administratives fort nécessaires et d'une communication plus efficace avec les factions sunnites et kurdes. Il m'avait répondu poliment tout en restant sur la défensive. À l'évidence, il n'était pas très versé dans les écrits fédéralistes de l'ancien président et père fondateur James Madison sur le danger du morcellement de la société. De son point de vue, les chiites étaient majoritaires et sa coalition avait remporté les élections. Les sunnites et les kurdes retardaient la sortie de crise avec leurs exigences insensées et la demande de prise en compte des intérêts des minorités irakiennes ou de protection de leurs droits était un désagrément qu'il attribuait aux pressions américaines. Cette conversation m'avait rappelé qu'une élection ne suffit pas à engendrer une démocratie fonctionnelle. Tant que l'Irak ne serait pas parvenu à renforcer ses institutions et que ses dirigeants n'auraient pas pris l'habitude du compromis, les difficultés perdureraient dans le pays. Malgré tout, le fait que al-Maliki et ses rivaux expriment leur hostilité et leur méfiance par des canaux politiques et non par les armes était en soi un progrès. Tandis que les forces américaines se retiraient des centres urbains du pays, les attentats commandités par Al-Qaïda étaient en diminution constante et notre état-major signalait une amélioration continue des forces de sécurité irakiennes. Pour Gates et moi, il ne faisait aucun doute que les États-Unis continueraient à jouer un rôle en Irak dans les années à venir. Il faudrait conseiller les ministères clés, entraîner les forces de sécurité, faire sauter les verrous entre factions et apporter une aide financière à la reconstruction du pays. Mais, sauf revers important, la fin de la guerre d'Irak se profilait enfin à l'horizon. On ne pouvait pas en dire autant de l'Afghanistan. Les troupes supplémentaires dont j'avais autorisé l'envoi en février avaient permis de contenir la progression des talibans dans certaines zones et s'attelaient à sécuriser l'élection présidentielle imminente. Mais nos forces avaient été incapables de sortir le pays de la spirale de violence et d'instabilité dans laquelle il était plongé, et, conséquence du durcissement des combats et de l'élargissement de la ligne de front, les pertes américaines avaient bondi. Côté afghan aussi, le bilan était inquiétant, avec un nombre croissant de civils victimes de tirs croisés, d'attentats suicides ou de mines sophistiquées que les insurgés plaçaient sur le bord des routes. Les Afghans se plaignaient de plus en plus de certaines tactiques américaines, les raids nocturnes sur des maisons soupçonnées d'héberger des combattants talibans par exemple, qu'ils estimaient dangereuses et perturbatrices, mais que notre état-major jugeait nécessaires. Sur le front politique, la stratégie du président Karzai pour se faire réélire consistait principalement à acheter les personnalités locales influentes, intimider ses adversaires et dresser habilement les factions ethniques les unes contre les autres. Au plan diplomatique, nos liens avec le sommet de l'administration pakistanaise semblaient inopérants, car celle-ci continuait à tolérer la présence de poches talibanes sur son territoire. En outre, Al-Qaïda s'était recomposé dans les zones frontalières du Pakistan, où il continuait à représenter une menace importante. En l'absence d'avancées significatives, nous étions tous impatients de savoir ce que le nouveau commandant de la Force internationale d'assistance et de sécurité, le général Stanley McChrystal, pensait de cette situation. Fin août, après avoir passé plusieurs semaines en Afghanistan avec une équipe de conseillers militaires et civils, McChrystal a remis le rapport que Gates lui avait demandé. Quelques jours plus tard, le Pentagone l'a fait suivre à la Maison-Blanche. Au lieu de nous fournir des réponses claires, il n'a fait que soulever de nouvelles questions difficiles. Dans l'ensemble, le rapport de McChrystal détaillait ce que nous savions déjà. La situation sur place ne faisait qu'empirer, avec des talibans enhardis face à une armée afghane faible et démoralisée. Karzai, dont l'élection avait été entachée par des violences et des fraudes, était toujours à la tête d'un gouvernement corrompu et incompétent aux yeux du peuple afghan. Mais c'est la conclusion du rapport qui a frappé les esprits. Pour inverser la tendance, McChrystal proposait une stratégie de contre-insurrection, une campagne militaire visant à contenir et à marginaliser les rebelles, non seulement en les combattant, mais en œuvrant simultanément à stabiliser le pays, ce qui, dans l'idéal, devait apaiser au moins partiellement la colère qui avait poussé ces groupes à prendre les armes. L'ambition de cette approche dépassait ce que j'avais imaginé lorsque j'avais adopté les recommandations du rapport Rydell au printemps, et de plus, McChrystal demandait au minimum 40 000 hommes en supplément de ceux que j'avais déjà déployés, montant le total de nos troupes en Afghanistan à 100 000 hommes dans un avenir proche. « Tu parles d'un président anti-guerre », a commenté Axe. J'avais l'impression de m'être fait avoir, l'impression que le Pentagone n'avait cédé sur le chiffre initial de 17 000 hommes et 4 000 instructeurs que pour pouvoir revenir ensuite à la charge et en exiger davantage. Autour de moi, les dissensions, déjà visibles en février, ne faisaient que se creuser. Mike Mullen, les chefs d'état-major et David Petraeus, approuvaient la stratégie anti-insurrectionnelle de McChrystal et soutenaient que toute action moins ambitieuse échouerait, trahirait un manque de détermination de notre part et enverrait donc un signal dangereux à nos alliés comme à nos ennemis. Hillary et Panetta n'ont pas tardé à leur emboîter le pas. Gates, ayant auparavant douté qu'il soit très sage d'accroître encore notre présence militaire dans un pays connu pour sa résistance aux occupants étrangers, se montrait plus circonspect. Il m'a cependant avoué avoir été convaincu par McChrystal qu'un contingent plus réduit ne suffirait pas et que, à condition de travailler main dans la main avec les forces de sécurité afghanes pour protéger la population et de mieux former nos soldats à respecter la culture afghane, nous pouvions éviter la situation qui avait plombé les soviétiques dans les années 1980. Pour l'autre camp, composé de Joe et d'une grande partie du Conseil de sécurité nationale, la proposition de McChrystal s'inscrivait dans la continuité des tentatives de l'armée pour embarquer le pays dans un exercice toujours plus futile et coûteux de construction nationale, alors que nous avions bien plus intérêt à nous concentrer sur la lutte contre Al-Qaïda. Après avoir lu les 66 pages du rapport, je me suis rangé à leur scepticisme. Je n'y avais trouvé aucune stratégie de repli claire. Si nous suivions ces préconisations, il nous faudrait de 5 à 6 ans pour simplement ramener les troupes américaines à leur nombre actuel. Pour ne rien arranger, cela représentait un coût aberrant, au moins $1 milliard pour chaque nouveau millier de soldats déployés. Nos hommes et femmes en uniforme, dont certains en étaient à leur 4e ou 5e mission en près d'une décennie de conflit, subiraient des pertes plus grandes encore. Et considérant la résistance des talibans et les dysfonctionnements du régime de Karzaï, le succès de nos projets était tout sauf assuré. Dans la note où ils entérinaient les préconisations de McChrystal, Gates et les généraux affirmaient que la puissance militaire américaine ne parviendrait pas à stabiliser l'Afghanistan tant que le pouvoir serait gangréné par la corruption et continuerait à s'en prendre à son peuple. Je ne voyais pas comment cette condition pourrait être remplie de sitôt. Néanmoins, certaines vérités incontestables m'empêchaient de rejeter sur le champ le plan de McChrystal. Le statu quo était intenable. Nous ne pouvions pas prendre le risque de laisser les talibans revenir au pouvoir, et nous avions besoin de temps pour entraîner les forces de sécurité afghanes et pour éradiquer Al-Qaïda ainsi que toute sa hiérarchie. Malgré la confiance que j'avais en mon propre jugement, je ne pouvais ignorer les recommandations unanimes de généraux expérimentés qui étaient parvenus à conserver un minimum de stabilité en Irak et menaient déjà bataille en Afghanistan. C'est pourquoi j'ai demandé à Jim Jones et à Tom Donilon de programmer un cycle de réunions du Conseil de sécurité nationale, lors desquelles, loin de la politique politicienne et des controverses médiatiques, nous pourrions éplucher méthodiquement les propositions de McChrystal, chercher dans quelle mesure elles s'accordaient avec les objectifs que nous avions précédemment définis, et décider de la meilleure marche à suivre. Mais les généraux ne l'entendaient pas de cette oreille. Deux jours après que le rapport m'eut été transmis, le Washington Post a publié un entretien avec David Petraeus, dans lequel il déclarait que la victoire en Afghanistan serait impossible sans une augmentation considérable du contingent sur place et une stratégie anti-insurrectionnelle, globale et dotée de moyens importants. Une dizaine de jours plus tard, alors que je sortais tout juste de la salle de crise après notre première réunion autour des propositions de McChrystal, Mike Mullen était entendu par la commission des forces armées du Sénat, devant laquelle il a tenu le même discours, rejetant toute stratégie plus limitée au motif qu'elle ne permettrait pas de vaincre Al-Qaïda et empêcherait que l'Afghanistan puisse à l'avenir jouer un rôle de base opérationnelle pour déjouer les attentats visant les États-Unis. Quelques jours encore après cela, le 21 septembre, le Post a publié un résumé du rapport de McChrystal, qui avait été communiqué au journaliste Bob Woodward, sous le titre « Pour McChrystal, il faut envoyer des troupes sous peine d'échouer en Afghanistan ». Cet article a été rapidement suivi par un entretien télévisé de McChrystal dans l'émission 60 minutes et un discours à Londres. Deux occasions dont il a profité pour vanter la supériorité de sa stratégie anti-insurrectionnelle sur les autres options. La suite était prévisible. Les faucons républicains, tels que John McCain et Lindsey Graham, ont ajouté leur voix à l'offensive médiatique du général et repris la rengaine selon laquelle je ferais mieux d'écouter mes commandants sur le terrain et d'accéder aux demandes de McChrystal. Tous les jours, des articles à sensation sur le fossé croissant entre la Maison-Blanche et le Pentagone sortaient dans la presse. Des éditorialistes me qualifiaient d'indécis et se demandaient si j'avais suffisamment de cran pour diriger un pays en guerre. Ram m'a confié que, durant toutes les années qu'il avait passées à Washington, il n'avait jamais vu pareille campagne coordonnée pour acculer un président. Biden, lui, était plus lapidaire. « Quel scandale, putain !» J'étais d'accord. Ce n'était pas la première fois que la presse révélait des dissensions au sein de mon équipe, mais c'était la première fois de mon mandat que j'avais le sentiment qu'un organisme placé sous ma direction poursuivait ses propres visées. J'ai décidé que ce serait aussi la dernière. Peu après l'audience parlementaire de Mullen, je lui ai demandé, ainsi qu'à Gates, de venir me voir dans le bureau ovale. « Bien », leur ai-je dit après leur avoir offert un café lorsque nous avons été assis. Je n'ai pas été clair quand j'ai dit qu'il me fallait du temps pour examiner les propositions de McChrystal, ou peut-être que vos services n'ont simplement aucun respect pour moi. Gênés, les deux hommes se tortillaient sur le canapé. Comme souvent lorsque je suis en colère, je n'avais pas haussé la voix. J'ai poursuivi. Depuis le jour de mon investiture, je me mets en quatre pour que toutes les opinions soient entendues, et je crois avoir montré que je peux prendre des décisions impopulaires si je les estime nécessaires pour le bien du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bob ? Je suis d'accord, monsieur le président. Donc, quand je fixe un plan de travail afin de déterminer si je vais dépenser des centaines de milliards de dollars pour envoyer des dizaines de milliers d'hommes dans une zone de conflit et que mes chefs d'état-major court-circuitent ce processus en martelant publiquement leur position, je m'interroge. Est-ce qu'ils pensent savoir mieux que moi et n'ont pas envie de prendre la peine de répondre à mes questions? Est-ce parce que je suis jeune et que je n'ai pas fait l'armée? Est-ce parce qu'ils désapprouvent mes opinions politiques? Je me suis interrompu, laissant ma question en suspens. Mullen s'est raclé la gorge. Monsieur le Président, a-t-il dit, je pense parler au nom de tous vos généraux en vous assurant que nous avons le plus grand respect envers vous et envers votre charge. J'ai opiné. Très bien, Mike, je vais vous croire sur parole. Et je vais vous donner ma parole que je prendrai ma décision en m'appuyant sur l'avis du Pentagone et sur ce que je juge être l'intérêt général. Mais d'ici là, j'ai marqué un temps pour appuyer mon propos. J'apprécierais sincèrement que mes conseillers militaires cessent de me dire ce que je dois faire en une de tous les journaux. Marché conclu ? Mullen a acquiescé. Nous sommes passés à la suite. Avec le recul, j'ai tendance à croire Gates lorsqu'il a nié l'existence d'une action coordonnée par Mullen, Petraeus ou McChrystal pour me forcer la main, même s'il a plus tard admis avoir appris d'une source fiable qu'une personne dans l'entourage de McChrystal avait fait fuiter le rapport à Woodward. Je sais que ces trois hommes étaient sincèrement convaincus de la justesse de leur jugement et considéraient que leur rôle d'officier exigeait qu'ils s'expriment sans fard devant le Sénat ou la presse, quelles que soient les conséquences politiques. Gates n'a pas omis de me rappeler que le franc-parler de Mullen avait également agacé le président Bush, et il a eu raison de me faire observer que certains conseillers à la Maison-Blanche n'étaient pas les derniers à utiliser la presse en coulisses. Mais j'ai aussi le sentiment que cet épisode illustre combien les années Bush avaient habitué l'armée à obtenir tout ce qu'elle demandait, et à quel point les décisions politiques les plus fondamentales, la guerre et la paix, mais aussi les priorités budgétaires, les objectifs diplomatiques et l'équilibre entre la sécurité et les autres valeurs, avaient été sous-traités au Pentagone et à la CIA. Il n'est pas difficile de comprendre comment nous en étions arrivés là. Le 11 septembre, la volonté de tout faire pour arrêter les terroristes et la réticence de la Maison-Blanche à poser les questions qui fâchent, une armée contrainte de payer les pots cassés après avoir envahi l'Irak, une opinion publique considérant à juste titre l'armée plus compétente et digne de confiance que les civils chargés de fixer les orientations politiques, un congrès cherchant avant tout à se défausser des problèmes de politique extérieure, et une presse capable d'une déférence excessive vis-à-vis de toute personne arborant des étoiles sur l'épaule. Des hommes comme Mullen, Petraeus, McChrystal et Gates, des commandants aguerris et dévoués aux tâches immensément difficiles qui les attendaient, avaient tout simplement comblé un vide. Les États-Unis avaient eu de la chance qu'ils occupent ces fonctions, et leurs décisions durant les dernières phases de la guerre d'Irak se sont presque toutes révélées bonnes. Mais, ainsi que je l'avais dit à Petraeus juste avant mon élection, quand nous nous étions rencontrés en Irak, il incombait au président d'avoir une vision d'ensemble et de sous-peser les coûts et les avantages de l'action militaire en regard de tous les autres éléments concourant à la puissance de la nation. Ces questions de fond, le contrôle civil du processus politique, la répartition légale des rôles entre le président et ses conseillers militaires et l'apport de chacun dans la prise de décision, ont animé, au même titre que les désaccords stratégiques ou tactiques, les discussions concernant l'Afghanistan. Et c'est sur ces questions que les divergences entre Gates et moi sont devenues les plus criantes. Gates, rompu comme personne aux mécaniques de Washington, comprenait parfaitement les pressions parlementaires, l'opinion publique et les contraintes budgétaires. Mais il n'y voyait que des obstacles à contourner et non des facteurs légitimes pouvant peser sur nos décisions. Tout au long du débat sur l'Afghanistan, il a vivement écarté les objections soulevées par Ram ou Biden à propos de la difficulté à faire voter par le Congrès les 30 à 40 milliards de dollars annuels qu'exigeait le plan de McChrystal, ou de la lassitude que ressentait le pays après une décennie de guerre, en leur reprochant leur caractère politique. Il arrivait aussi, mais jamais en ma présence, qu'ils mettent en doute mon investissement dans la guerre et dans la stratégie adoptée en mars, l'attribuant sans doute également à un motif politique. Il avait du mal à entendre que ce qu'il qualifiait ainsi était en réalité le fonctionnement normal de la démocratie, que notre mission n'était pas uniquement de vaincre un ennemi, mais de veiller à ce que cette victoire ne laisse pas le pays exsangue, que le choix de dépenser des centaines de milliards dans l'éducation ou la santé des enfants et non dans des missiles et des bases avancées ne s'opposait pas à la sécurité nationale, mais lui était consubstantiel, que la passion et le patriotisme des personnes désirant diminuer le nombre de jeunes Américains envoyés au feu pouvaient rivaliser avec le sens du devoir qu'il éprouvait envers les troupes déployées, avec son authentique et admirable désir de leur donner toutes les chances de réussir.